Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Caroline Robineau. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Amalia, stagiaire à Erdiwa. Bonjour.
Bonjour Yves.
Rebonjour.
Ouais.
Et donc Caroline, vous êtes ici pour des propositions de stage de théâtre sur trois périodes et qui traitent de l'émotion, des émotions avec un mode d'emploi. Donc c'est ouvert pour les adolescents, les adultes et ouvert à toutes. Tous, même si on peut dire. Et c'est une proposition qui a lieu de 9h30 à 15h. Donc ce sont des doubles journées assez remplies. Et pour cela, y participer d'ailleurs, c'est à prix libre. Et ça se passe à la MJC Nini Chaise.
Exactement, à Oust-sur-Scie. J'ai eu envie de proposer des stages qui s'appelle émotion, mode d'emploi. Clairement, j'y réfléchissais. Il manque un S parce que je pense qu'il n'y a pas du tout qu'un mode d'emploi. Mais ce sont des espaces ouverts à toutes et tous, sans prérequis. C'est ça que ça veut dire en particulier. Parce que le théâtre est pas toujours, semble pas toujours accessible, je pense, en fonction d'où on vient. Moi, par exemple, je venais vraiment d'une classe populaire et je rêvais d'être comédienne, mais ça me semblait inatteignable. Et le chemin faisant, j'ai finalement réussi. Mais ça me tient vraiment à cœur d'offrir des espaces où on peut explorer nos émotions à travers, bien sûr, des échauffements, mais aussi des exercices ludiques, du jeu, beaucoup. On est dans du théâtre, donc bien sûr pas en thérapie, mais ça va venir travailler forcément. Mais j'aime vraiment avoir une approche multidisciplinaire de ça, c'est-à-dire aussi bien venir par le mouvement que par le rapport à l'espace, que par la voix, que par le texte. Il y a souvent même des petits exercices d'écriture. L'idée, c'est de voir c'est quoi la porte d'entrée qui permet à chacun et chacune de rentrer dans ces sujets, dans une émotion. Je pense qu'en plus, ça peut varier en fonction des émotions qu'on a appris à retenir ou au contraire à s'exprimer. Le but, c'est vraiment de reconnecter à soi et à l'autre, de s'offrir des espaces où on peut vraiment s'amuser, explorer. On va souvent se définir, moi je suis plutôt comme ci, comme ça. Là, on peut être super en colère, on peut s'entraîner à être timide parce qu'on nous a définis comme des personnes extraverties, par exemple. C'est toujours dans un cadre chouchou-bichou, dit bienveillant et joyeux. Ça n'empêche pas de laisser de la place aux émotions qui viendront.
Ces émotions, nous les avons tous.
Sans aucun doute.
Et le jeu pour vous, c'est de les faire ressurgir, de les dompter peut-être, de les canaliser pour peut-être mieux appréhender un texte aussi.
Je pense en effet qu'on est traversé par des émotions, on en a plus ou moins conscience, on nous a plus ou moins appris à leur laisser de la place. Souvent on va venir me chercher pour intervenir dans les écoles sur la question de la gestion des émotions. J'ai tendance à essayer de recadrer pour dire que c'est pas tant gérer que d'apprendre à les connaître et à avoir le droit de les exprimer et à montrer qu'en fonction de l'intensité, on va pas l'exprimer de la même façon. C'est pas parce qu'on crie que d'un coup c'est plus fort. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire qui s'appelle la machine infernale, que je transforme et que je mets en intensité. Donc la personne va venir faire une émotion à un niveau 1, sur la colère par exemple, c'était sur la honte la dernière fois. Puis la personne, le deuxième élève venait sur le niveau 2, 3, 4, 5, donc ils étaient de plus en plus expressifs. Et la dernière personne regardait ailleurs. Il y a plusieurs élèves qui ont dit mais ça c'est pas le niveau 5, je comprends pas. Et je dis, je crois que si, justement, parce que quand on a très honte, on va souvent faire du déni, on va souvent regarder ailleurs, essayer d'amener le focus sur autre chose. Et donc ça amène des super discussions sociales, finalement, et politiques, pour moi. Et on peut s'amuser et se représenter autrement. J'ai aussi vu des enfants ou des ados qui étaient, par exemple, très réservés dans un premier abord. Normal, je ne les connais pas. Et en quelques heures, ou s'ouvrir, ou se montrer différemment au groupe, au prof. Et ça permet de connecter différemment, d'être plus libre, finalement, je crois.
La MJC Nénichèze vous reçoit donc. Pour vous, c'est le lieu propice à cette activité et c'est ouvert à tous. Mais est-ce qu'il y a un public spécifique aussi qui vient vous voir ?
Merci pour la question. C'est pas rien de. J'ai emménagé dans la Drôme il y a 5 ans, à Oust il y a un an. C'est vraiment symbolique et important pour moi de venir travailler sur mon territoire. J'ai tendance à beaucoup bouger, beaucoup partir, j'adore ça. Mais de plus en plus, j'ai envie aussi d'agir, d'intervenir là où je vis. Et le centre social Nénichèze, c'est vraiment une des raisons pourquoi je suis très heureuse d'habiter à Oust. Je la trouve incroyable au niveau des valeurs, au niveau de la posture qu'ils peuvent avoir, aussi bien au niveau des adultes que des ados. J'ai deux ados à la maison et je trouve ça formidable comment les animateurs éducateurs s'adressent à eux. Et donc, ils me mettent les locaux à disposition. Est-ce que j'attends un public particulier ? Moi, mon rêve, c'est que les gens se mélangent. Du coup, j'aimerais vraiment qu'il n'y ait ni snobisme, on va dire, ou crainte de la part des plus expérimentés à rencontrer des moins expérimentés, et inversement. Bien sûr, c'est dans un monde idéal. Moi, la première, je suis souvent terrifiée à l'idée de rencontrer un nouveau groupe. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit, précisé. Ça m'a semblé à la fois un peu inutile, naïf, et en même temps, je me suis dit que ça pouvait peut-être rejoindre des gens qui n'osaient pas passer le pas ou se demandaient quand est-ce qu'ils n'étaient pas peut-être trop jeunes, trop vieux, trop je ne sais quoi, ou pas assez. Voilà, c'est un peu l'idée. Et aussi de venir, bien sûr, avec toute la diversité de genre, corps, personnalité.
Émotion au pluriel, donc on en a un peu parlé. Vous avez cité la honte qui était le parti pris de la session précédente. Toujours avec cette même organisation, 3 rendez-vous de 2 journées.
Alors, là, quand je parlais de la honte, c'était un des exemples lorsque j'étais intervenue dans une école. Là, l'idée, c'est de traverser plusieurs émotions. J'aime bien, je prévois un canevas, j'aime bien y aller aussi en fonction de ce qui ressort. Je demande aux gens d'amener un texte. Donc, je vois ce qui peut donner envie ou libérer. Souvent, je vais aller trouver une balance entre ce qu'on va appeler les émotions plus positives et celles qu'on va plutôt tendance à avoir comme négatives à retenir, même si, bien sûr, vous savez comme moi que ça ne se joue pas entre positif et négatif. Mais, et donc, de trouver un équilibre pour exprimer ces deux-là. Et donc, d'avoir un espace où on peut exprimer la colère, la peur, mais aussi la joie. Moi, j'ai connu beaucoup, je me rappelle avoir une discussion avec les enfants, une fois, qui disaient « Mais le plus difficile comme émotion, pour moi, c'est la joie. » Parce que je pense qu'on leur dit beaucoup « Ah, t'es trop excitée !» Je le fais aussi comme maman, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais... Et une autre adulte, dernièrement, qui me disait « Moi, je croyais que j'étais jamais en colère, et t'as ouvert cet espace-là, et j'ai écrit un texte, et je me rends compte que vraiment, je vais pouvoir continuer à avancer, j'ai envie d'en faire un texte de théâtre. » Voilà, donc on va vraiment se balader à travers différentes émotions, et jouer avec le texte, parce qu'on est là vraiment en jeu. Donc voir comment un texte résonne différemment en fonction d'une émotion, voir comment dans notre corps on peut jongler, voir comment dans la rencontre ces émotions elles se conjuguent, etc.
Le choix du texte s'opère par vous ou alors par le public ?
Non, moi je choisis jamais. J'aime beaucoup partir de ce que les gens proposent. J'amène des textes, ça permet aussi une diversité, et puis si les personnes n'ont pas pensé, oublié. Mais je propose souvent aux personnes de venir ou de choisir parmi les textes que j'ai choisis. Et souvent, on va écrire aussi, donc à partir de ce que les personnes viennent d'écrire, en écriture spontanée, c'est-à-dire on écrit comme ça vient. Parfois, on va recomposer des textes entre ces différents textes qui auront été écrits, pour faire quelque chose de plus collectif, plus poétique. Voilà, je m'amuse avec les différentes choses que j'ai dans mon sac.
Et ça s'adresse donc aux adolescents, aux adultes, 2 générations. Est-ce qu'il y a cette jonction possible ? Est-ce qu'il y a cette osmose ?
Je vous raconterai ça après. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie, parce que je pense qu'on apprend beaucoup en étant au contact des autres. Et j'imagine que vous portez beaucoup ça ici aussi. Et je me rappelle, j'ai longtemps vécu à Montréal et je n'étais du coup qu'entourée de gens qui n'avaient que mon âge. Et à quel point ça manquait. On était dans nos mêmes problématiques, nos mêmes enjeux, avec peu de hauteur ou peu de naïveté. Et j'aime ce mélange. Là, normalement, il y a par exemple une jeune fille qui vient avec sa grand-mère. Donc je vais vraiment être enchantée de pouvoir accompagner ça. Mais c'est tout un défi, parce que je pense qu'il y a peu d'espace où on se rencontre vraiment en dehors des fêtes, de la famille, et qu'on est nombreux à travailler dans ce sens-là. Mais si on pouvait s'amuser avec nos émotions à travers les générations, je pense que ce serait assez formidable.
Amalia ?
quel a été votre parcours pour en arriver là ?
Moi, j'ai été à l'école jusqu'à un bac S parce que je rentrais, comment dire, c'était facile plutôt pour moi d'apprendre. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, on m'a orienté un peu bêtement sur un bac scientifique qui ne me parlait pas. Je ne voulais pas du tout faire le métier qui allait avec. J'avais ce rêve depuis gamine d'être comédienne. Mais vraiment, je viens d'un milieu où ce n'est pas un métier. Ça n'existe pas vraiment, ce milieu artistique. J'ai quand même 40 ans, donc peut-être ça a évolué un peu. Et encore, je pense que c'est vraiment une question de milieu social. J'ai pris des cours de théâtre, je me rappelle le premier en CE1, je pense, puis après une année au collège en théâtre d'impro. Et puis plus tard, j'ai fait une option au lycée, puis après, souvent j'oubliais, j'y revenais. À Montréal, je me suis beaucoup plus formée, parce qu'il y a aussi un rapport à l'artiste avec un grand A beaucoup moins présent. Tu fais quelque chose artistique, tu es artiste, point, c'est une démarche plus qu'un statut. Et j'ai eu deux filles très rapprochées. Et je me suis dit, en tant que maman, je veux vraiment qu'elles réalisent leurs rêves. Vous savez, dans ces moments-là où on s'enthousiasme un peu. Et je me suis dit, au Québec, on dit monkey see, monkey do, c'est-à-dire les singes font ce qu'ils voient. Je me suis dit que c'était le moment d'essayer d'aller vers ce rêve que j'avais. Ça n'a pas été toujours facile, on en parlait. Le milieu du théâtre n'est pas toujours évident. Mais en effet, je crois que je peux quand même être heureuse, chanceuse, fière, je sais pas. Et donc après, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour pouvoir faire une première création au Québec. Et quand je suis revenue, j'avais un petit peu ça dans mes poches. J'ai rencontré différentes compagnies. Et j'ai eu une approche multidisciplinaire qui fait que je pense ça, qui peut plaire, qui peut faire peur aussi, mais qui me permet d'intégrer les différents groupes.
C'est rendez-vous donné le 11 et 12 octobre pour commencer. Combien de public ou combien de personnes attendez-vous pour ces stages ?
La salle est grande. Moi, j'aime être à formule à géométrie variable. Si on est un petit groupe, on va pouvoir faire quelque chose de plus intime. On peut largement rentrer à 15 personnes. La salle le permet. Et ça permet d'avoir différentes dynamiques, de rejoindre plusieurs personnes. Je pense qu'on sera plutôt parti sur un petit groupe pour cette fois. Je ne suis pas très bonne. J'ai fait un master en communication après ce fameux bac. Je ne suis pas très bonne en communication. Je suis vraiment une cordonnière pieds nus.
Et d'ailleurs, ce mode d'emploi ou ces modes d'emploi permettront quoi pour chaque personne venant ?
J'aime bien cette question. Qu'est-ce qu'ils vont permettre ? Je saurais difficilement le dire à leur place. Moi, je sais que ce que j'ai vécu, et donc ce à quoi j'aspire, c'est d'ouvrir des espaces où on peut s'offrir de la liberté. Je crois que en jouant, je m'autorise à être plus moi-même. J'essaye de ne pas être trop ceci et pas être trop cela en société. Le théâtre me permet vraiment d'aller à fond dans une émotion, ou au contraire, y aller plus subtilement et de jouer de nous. Il y a un peu ça aussi, c'est de prendre une petite distance avec ce qu'on vit, avec ce qu'on partage, de pouvoir en rigoler ou le méga dramatiser. Oui, je crois d'ouvrir des petites interstices de liberté, et de fun, quand même, avant tout.
Est-ce que il y a... Moi, j'ai pratiqué les stages de clown. Je ne sais pas si vous l'avez aussi fait. Il y a cette possibilité d'introspection qui permet aussi de pouvoir s'affirmer également en résultat. Est-ce qu'il y a cette tendance aussi proposée pour ces stages ?
Oui, oui, je crois que c'est ce que j'aime offrir. C'est d'avoir des prétextes pour gagner en estime, en confiance de soi, en légitimité d'être qui on est, et d'aller chercher, tiens, cette émotion est plus difficile pour moi. Ou alors je croyais qu'elle était facile et finalement, c'est parce que je la surjoue, mais quand on me demande de la vivre vraiment, de jouer à la vivre, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça me donne ? J'aime beaucoup le clown, j'aspire à être clown à l'hôpital, et c'est clairement des influences. Voilà, il y a du théâtre contemporain, du théâtre physique, du mime, du clown, c'est des choses que j'ai pu traverser. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir me resservir de ces outils-là pour les mettre à disposition et faire un espèce de petit boulgui-boulga de tout ce que j'ai pu traverser et apprendre.
De 9h30 à 15h, ces journées donc, sont occupées par diverses activités. Est-ce qu'il y a un processus constant et oui. de mise en forme, par exemple ?
Oui, Alors déjà, 9h30, 15h, ça peut surprendre. Je trouvais ça important de laisser du temps dans le week-end à faire autre chose. Je trouve ça, ça va très vite, je trouve, la vie entre les obligations, les engagements avec la famille, les travaux, ça peut aller vite. Donc j'avais envie d'offrir la possibilité de faire des stages, mais que ça prenne pas tout le week-end non plus. C'est un test. Oui, il y a un processus, il y a déjà un processus d'arriver, d'atterrir, de prendre le temps de sortir de la frénésie ou de la bulle dans laquelle on est à ce moment-là, pour atterrir juste pour soi, puis de se connecter à l'autre. Donc ça va être par des différents jeux, différents moments. Ensuite, il y a un échauffement plutôt corporel, voilà, de venir déverrouiller, on a tendance à être quand même souvent beaucoup assise. Et puis de la voix, voilà, comment on fait pour libérer cette voix qui est souvent retenue. L'espace, prendre conscience de soi dans l'espace, où est-ce qu'on se situe, comment on se situe, se rendre compte qu'on est là, vraiment. Et puis après, l'autre dans tout ça. Donc voilà, il y a un grand temps d'échauffement. Après, il y a tout un tas de jeux pour avoir du fun, pour se lâcher, pour se libérer, pour tester. Donc vraiment des jeux-exercices. Souvent, on revient à un petit temps de création, ou par l'écriture, ou par l'échange. Et puis après, ce que j'appelle plus des explorations, qu'on pourrait aussi apprendre des improvisations, avec différents prétextes. Voilà, donc là, ça pourrait être... je suis encore en train d'inventer, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, penser à des stages. Mais ça va être, par exemple, comment on se rencontre deux émotions différentes, avec juste un lieu, par exemple. Qu'est-ce qui vient ? Comment on s'influence l'une de l'autre ? Et puis après, on va mélanger ça, on va mettre du texte. Okay, comment on traverse un texte ? Comment ce texte-là, il va résonner si je me mets en colère ? Des textes tout plats. Ou au contraire, si je suis amoureuse. Et puis plus on va, plus on avance dans la journée, plus c'est libre, plus c'est des espaces de création.
Voilà. Parmi ces exercices, il y a cette ouverture aussi de captation, des sens aussi, pour bien se positionner vis-à-vis des autres. Ça, c'est un travail aussi important de vraiment être présent.
Oui, complètement. Et pour ça, on va travailler l'écoute. Et plus ça va, plus je me rends compte de l'importance. Les premiers cours, on me disait « oui, mais quand tu joues pas, c'est aussi important, honnêtement ». Bon, je le comprenais sur papier, mais plus ça va, plus je vois à quel point c'est pertinent de prendre le temps de regarder, d'écouter, de recevoir avant de réagir, à quel point les silences peuvent être magnifiques. Donc on va travailler aussi tout ça. Et puis la question de... Vous avez parlé de la question des sens, et c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau. On n'est pas juste avec ce corps et de la voix, par exemple. J'ai eu la chance de travailler pendant un petit moment sur du théâtre sensoriel. Et donc comment, avec les différents sens, on peut venir refléter ou nourrir une émotion par le toucher, par l'odeur, par les différents contacts de matière. C'est quelque chose qui peut être très beau aussi à travailler. Je vais voir si, suivant le groupe, la dynamique, s'ils vont pas vers ça déjà ou si ce sera pour un autre stage.
Personnes n'ont pas forcément la conscience de leur singularité. Il y a donc ce miroir proposé aussi pour s'exercer sur soi.
Oui, comme l'angle principal, c'est pas l'angle, pardon, mais la valeur principale. C'est pour ça que, bon, en fait, ce titre émotion mode d'emploi, il fait écho à un projet que j'ai fait à Saint-Nazaire le désert avec des enfants, et où les enfants apprenaient aux adultes à gérer ou à juste évoquer leurs émotions. Sur la blague de nous, maintenant, on a les petit livre avec les bonhommes bleus et rouges, mais clairement on vous voit galérer les adultes, donc on va vous expliquer. Voilà. Et donc ce titre m'est revenu, c'était un très beau moment avec eux. Mais je tiens beaucoup, et c'est pour ça que mes ateliers, je prépare un canevas, mais je vais vraiment y aller avec qui est présent, comment, et rebondir sur une proposition de quelqu'un, et valoriser, comme vous avez dit que vous aviez fait du clown, vraiment de qui on est, avec on est trop plein, on est trop peu, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc voilà, ce titre mode d'emploi, c'était plus pour évoquer qu'on allait venir chercher différentes façons de rentrer dans ces émotions, et que j'allais fournir différents outils pour les traverser, pour les nommer, parce que on nous apprend tout un tas de choses à l'école qui sont formidables aussi, mais sur les émotions, même si ça change beaucoup ces dernières années, il me semble qu'on a manqué d'espace pour pouvoir en discuter, échanger.
Oui, Amalia.
Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver dans des situations plus complexes où vous vous sentez bloqué et vous n'arrivez pas forcément à faire évoluer le groupe? Je dis ça parce que parfois, chez les débutants dans le théâtre, on a tendance à tirer le fil à soi, vers soi. Et on peut, malgré nous, peut-être dans le jeu, aller dans un espèce d'espace de domination. Et ça peut mettre en insécurité. Et est-ce que vous avez déjà traversé ce genre de difficultés? Et quelle est votre posture à ce moment-là?
Merci. Alors, je ne suis pas très bonne pour me rappeler d'histoires précises dans le passé. Ce qui m'est venu là, je ne sais pas si ça va répondre à votre question. Ça ne va pas répondre sur la question du pouvoir, mais sur la question des difficultés. Je vais voir s'il y a quelque chose d'autre qui me vient. Je me rappelle être intervenue dans un collège, je crois, au Chélard, donc en Ardèche. Et les premières heures, où il y avait deux ados vraiment plus qu'en retrait, en confrontation avec le groupe et avec ce qu'on proposait, ce que je comprends complètement. Imaginez, on est assis toute la journée, d'un coup, on vous demande de faire des trucs un peu chelous dans une salle. Et donc, vraiment, les premières heures, les bras croisés à nous regarder en nous snobant un peu. Et on est resté quelques jours. L'idée, c'est de traverser tout un processus, dont de faire une création avec un groupe de lycéens, lycéennes. Et je me rappelle, au bout de, je dirais, deux jours, ça allait très vite, c'était un processus rapide, au bout de deux, trois jours, ces deux jeunes se retrouvent à être à la mise en scène du spectacle, et je les vois faire « Alors toi, tu rentres là, super, merci, éclairage, musique !» Et d'un coup, elles se retournent vers nous, on était deux animés, et elles disent « Madame, je crois que j'ai trouvé ce que je voulais faire. » Et j'avoue que je lui souhaite de faire le parcours qu'elle veut, mais pour ce moment, d'avoir réussi à débloquer... Le comment, je ne saurais pas exactement. Je pense que c'est de prendre du temps. Je pense que c'est vraiment... J'essaye d'amener que je ne sais pas vraiment. Donc ça peut insécuriser des personnes et je vais essayer d'offrir un cadre assez structuré. Mais je vais vraiment être dans la recherche ensemble. Et peut-être que ça permet de casser ce truc de « je vais encore t'expliquer comment faire » qui peut être peut-être trop présent des fois. C'est ce qui m'est venu. Sur les rapports de pouvoir... Je crois que on a peut-être une chance dans la région d'avoir cette conscience un petit peu là. Et donc, si ça ne vient pas de moi, ça va pouvoir venir de quelqu'un d'autre. Et quand ça arrivait, je vais essayer un peu de CNV, de dire que je ne suis pas à l'aise, etc. Je vais recadrer. Je prends vraiment... Ah si, ça y est, j'ai une réponse. C'est que je prends vraiment le temps au début de faire une longue introduction qui pose un cadre. Qui pose un cadre de non-jugement, de bienveillance, de prendre soin de vous à titre personnel, d'être responsable de si vous avez besoin de sortir. Je n'ai aucune autorité là-dessus et personne là. Et qu'on est là pour explorer, donc pour se discuter, que pour se tromper. Je pense que ce cadre-là est vraiment important et permet d'y revenir après s'il y a une difficulté rencontrée. Tu sais, pour moi, ce cadre, il est important, je me permets de revenir à ça. Je crois que j'ai eu la chance, dans les ateliers que j'ai amenés, qu'il n'y ait pas eu trop lieu, ça.
Dans ces émotions, il y a divers aspects de présence. La posture, déjà. Et puis ensuite, il y a l'éloquence. C'est un travail aussi assez difficile d'amener une émotion par rapport à un texte et d'y trouver le ton juste. Ça, c'est...
Oui, bien sûr. Je pense que y a tout un tas d'éléments qui vont jouer et que c'est de trouver comment on va pouvoir aider la personne à le traverser. Je dirais qu'il y a beaucoup de la valorisation de la personne, de lui dire qu'elle cherche, où est-ce que c'est juste. Beaucoup du travail par le corps, des fois, de vite en émotion sans dire le texte. D'aller chercher des éléments différents et après on va le ramener sur le texte. Ou de s'amuser, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, de mettre plein d'émotions sur le sol et d'inviter la personne à marcher, par exemple, sur ses émotions en lisant son texte. Et donc, de devoir changer d'émotion au fur et à mesure. Et juste de s'amuser, d'explorer et de se rendre compte. Ah tiens, qu'est-ce qui était juste pour toi? Qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte que c'était juste? Et puis dans l'espace, est-ce que si tu le dis tout au fond de la salle, ou est-ce que si tu le dis face à moi, si tu le dis de dos, si tu me le chuchotes, voilà. Où est-ce qu'on va pouvoir déverrouiller ou trouver les voies qui vont permettre d'y aller? La question de la justesse, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, plein de fois, je suis allée voir des spectacles en trouvant ça ou incroyable ou catastrophique, et d'autres gens avaient la vie exactement inverse. Je trouvais ça très surjoué, les gens avaient été touchés, ou inversement, je trouvais ça très sensible, certains se sont ennuyés. C'est plus d'arrêter de surjouer le travail que de chercher une justesse. C'est très personnel. Et encore une fois, je ne pense pas détenir la vérité.
C'est un art minimal, peut-être, aussi, de l'action propre de chacun. C'est d'en faire le moins possible pour être au plus juste.
J'aime beaucoup cette idée. L'art minimal, c'est beau. Oui, je pense que c'est un beau travail. Ça peut être aussi d'aller dans son extrême pour pouvoir lâcher, justement, et revenir à quelque chose de plus simple. Mais au moins y être allé. Y aller franchement, si on a l'impression de surjouer. Viens, viens, on surjoue, pourquoi pas. Et au moins, on l'a lâché, on l'a fait. Et comment revenir à quelque chose de plus... Je pense que c'est un travail de connexion à soi. Donc oui, il y a de ça dans le stage, sur des travails un peu proches de la méditation, ou en tout cas de se reconnecter à ce qu'on ressent, et d'enlever tous les stéréotypes qu'on a sur le théâtre aussi, ou sur le clown quand on fait du clown. Et puis d'oser être un petit peu challengé, mais jamais de braquer la personne, mais juste de dire... Lâche ça, tout va bien, t'es avec nous, c'est très juste, continue, etc. En tout cas, je pense que ça dépend des personnes. Moi, je fonctionne vraiment par la valorisation. Si je suis avec des profs qui ont la logique de « d'abord je te casse pour te reconstruire, ça va jamais marcher », et je sais qu'il y a pas mal de milieux où ça arrive, mais il y en a aussi qui jouent beaucoup sur le « oui, c'est ça, juste ça ». Juste quand on voit quelque chose qui est juste et d'entendre que c'est un « oui », c'est énorme.
C'est aussi être au plus profond de soi et d'être peut-être à fleur de peau. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience de mettre un stop parfois avant que ça puisse vraiment poser problème?
Ça, c'est toute une question. C'est pour ça que je nomme que ce n'est pas une thérapie, même si, bien sûr, je souhaite aux personnes que ça leur apporte. Et moi-même, j'ai pu me servir du théâtre pour avancer là-dedans. Je ne sais pas s'il y a besoin... Bien sûr, je suis hypersensible, alors je ne vais pas être très objective, mais est-ce qu'il y a besoin d'être à fleur de peau? Je pense qu'il y a peut-être besoin d'être honnête avec ses émotions, mais du coup, surtout d'être outillé derrière, parce qu'on a beau être honnête, si on nous a tout bloqué à l'avance, ça va être difficile. Et peut-être que des gens plus stoïques vont avoir une meilleure habilité à aller chercher les émotions. Je pense que... Tout un tas de personnalités peuvent y aller. J'ai la chance d'être très, parfois trop, connectée à ce que je ressens. Mais ça n'empêche pas que j'ai appris à les mélanger et à plus savoir vraiment laquelle est laquelle des émotions. Donc je pense qu'il y a plusieurs chemins possibles.
Les textes sont porteurs aussi, des mots, des paroles. Est-ce que le choix s'opère? Vous disiez en proposer quelques-uns à l'adresse des groupes. Qu'est-ce qui ressort de ces textes qui vous ont retenu?
J'aime bien vos questions. Je pense que j'y vais très à l'intuition. Je me mets souvent devant ma bibliothèque et j'attrape les livres qui viennent. Ça va souvent être quand même quelque chose de poétique, ce qui ne veut pas dire naïf et léger, ne confondons pas. Plus ou moins engagé, parce que ce n'est pas possible pour moi de porter des textes qui ne font pas de sens avec mes valeurs. J'aime bien amener plusieurs styles, des choses qui vont être des phrases très courtes, très percussives, et à la fois des choses qui vont beaucoup plus se lier dans la description. J'aime ce qui est aussi très descriptif. J'aime beaucoup comprendre comment fonctionne le monde et des fois je galère. Alors, tout ce qui va pouvoir me donner des éléments de repère, je trouve que ce sont souvent des beaux textes et des textes qui ont l'air assez déconnectés du théâtre. Et j'aime beaucoup, je mets souvent des définitions par exemple dans les spectacles que je peux écrire parce que je trouve que c'est. On s'attend peut-être pas à. C'est pas parce qu'on s'attend pas à ça, mais qu'on s'entende sur les mots qu'on utilise. Ça me semble hyper important.
Et donc, effectivement, il y a des textes pour le théâtre, et puis il y a des textes aussi qui sont peut-être tout simplement scientifiques. Et là aussi, c'est la part belle à l'improvisation. Est-ce que ça, c'est un peu le jeu que vous proposez parfois?
Oui, complètement. C'est d'aller attraper tout un tas de textes différents, aussi bien des lettres que des articles. Si on peut lire le journal ou si on peut choper quelque chose sur Wikipédia, ça marche très bien. Et de voir comment, en traversant une émotion, ça va venir prendre un autre sens. J'aime beaucoup aussi quand on invite les personnes à entrecroiser des textes et à voir comment les phrases vont résonner alors que ces deux livres sont déconnectés et comment ils vont venir se nourrir l'un l'autre par la magie de l'improvisation.
Émotion au pluriel, mode d'emploi, 3 sessions de 2 journées. Les premières, ce sera le 11 et 12 octobre, ce week-end donc, avec une probable inscription encore par le biais de l'adresse mail que vous avez. Je la cite, carolinerobineau.pro@gmail.com. Ou alors il y a le téléphone aussi, 07 65 64 92 10. Et je mettrai ces liens sur la page de l'émission. Et puis ensuite, les deux autres sessions, celle du 7 et 8 février et 4 et 5 avril. Ces espaces, pour vous, c'est un moment... Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui reviendraient ou alors ce sont des choses très...
Ouvertes.
Très ouvertes.
Oui, oui, ça se veut vraiment ouvert. J'aime ça. J'aime si les personnes veulent traverser les trois comme des processus différents. Je suis fan d'inventer des ateliers. Il n'y a pas de problème d'inventer des différents à chaque session. Mais c'est difficile, des fois, de se libérer 3 week-ends dans l'année, même si on a très envie de faire ça. Donc, j'offre des cadres ouverts pour le meilleur et pour le pire, des fois, mais j'assume.
En dehors de ces stages de théâtre, vous proposez aussi de partager cette passion dans d'autres moments, dans d'autres lieux ?
Ouais, j'y travaille pas mal. Autour du théâtre, non, j'essaie d'ouvrir à la créativité en général. J'offre des stages de créativité, dans le sens large du terme, comme un muscle, comme au-delà de l'art, même si on passe beaucoup par de l'art visuel, autant que de l'écrit, que de la photo... et que du texte. Je propose aussi des dimanches, les dimanches soirs créativité en ligne. Et j'aimerais, oui, de plus en plus faire de... Mais je fais ça, j'offre de l'accompagnement aux personnes qui créent leur spectacle. J'aime beaucoup le processus. Je pense avoir pas mal d'affaires dans mes bagages pour pouvoir venir aider à avancer, tout en respectant que la création appartient à la personne. Pour le moment, c'est ça. Je suis en réflexion sur le reste.
Un regard extérieur, c'est ça ?
Oui, un petit peu plus, je crois. Mais je n'ai pas le bon terme. Je crois que je nomme ça accompagnatrice. Voilà.
Pendant ces séances, est-ce que parfois surgit l'accident dans un processus ?
Moi, j'ai été pas mal formée au clown. Alors, l'accident, on adore ça. On s'en régale, on le nourrit. Je pense que... Merci, je pense que je le rajouterai forcément, du coup, dans l'introduction. Oui, je vais inviter les personnes à rebondir dessus. Du coup, je ne vais pas créer l'accident, parce que sinon, ce n'est plus un accident. Mais s'il arrive, j'ai vraiment envie d'inviter et de proposer aux personnes de s'en servir pour continuer. Et souvent, c'est des moments où chacun va se surprendre. Et bah, c'est vraiment ça qui va rester, parce qu'il y a la spontanéité du moment. Il y a on a le droit à se tromper ou à l'échec ou à faire avec ce qu'il y a et à galérer. Donc c'est plutôt très joyeux, oui, de vivre les accidents sous cette forme-là.
En tout cas, c'est joyeux.
Oui, oui, oui. En fait, c'est du jeu. Donc c'est joyeux dans ce sens-là. C'est de le voir comme un prétexte à continuer à jouer, à rebondir, à se faire surprendre, à aller ailleurs. Par rapport à là où on se projette, parce que bien sûr, quand on commence quelque chose, ah là, il y a une idée qui vient et on va vouloir aller au bout de cette idée. Et c'est peut-être là où on va perdre la sincérité dont tout à l'heure on parlait, ou la vérité avec ce que ça veut dire derrière. Donc tant mieux, il faut y aller à fond.
Les émotions, pour vous, cela amène une préparation, mais également, pour vous, quelle est cette importance de ces émotions et à quoi peuvent-elles servir dans notre quotidien ?
Alors, les émotions, ça veut dire « emotion », c'est vraiment l'idée de nous mettre en action. Par contre, la façon de les montrer ou de les réprimer, voire de les invisibiliser, ça, c'est vraiment une question de construction sociale, en fonction de notre genre, de notre classe sociale, etc. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'offrir ces stages de théâtre pour ce qu'ils sont en tant que travail et exploration artistique, mais aussi vraiment sous un aspect politique de réoffrir de l'espace pour le sensible. Et ça, pour moi, c'est déjà un acte de résistance, d'arrêter de faire semblant, de ne pas être touché, d'être au-dessus de tout ça. Le théâtre, c'est historiquement un lieu de questionnement collectif, et de transformation. Et c'est pour ça que pour moi, ces stages, ils sont importants, qu'ils restent dans une volonté d'exploration.
Et d'éducation populaire ?
Oui, complètement. Ça fait quoi ? Quand je disais que j'arrivais avec un cadre et que ce n'était pas toujours très décidé ce que j'allais faire, parce que pour moi, on va inventer ensemble finalement un petit peu le stage. Je sais ce qu'on va faire, mais on va continuer à l'inventer ensemble. Et en parlant d'éducation populaire, c'est vraiment une de mes formations quand j'ai commencé à travailler. C'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, que je trouve très... qui donne de la possibilité d'agir aux gens. Et dans ce sens-là, on travaille avec CEP, qui est une association d'éducation populaire à Valence, sur des stages moins artistiques, mais qui sont sur, qui s'appellent Même pas peur et Même pas mal, mal écrit comme M-A, accent circonflexe L-E, qui sont dans la volonté de travailler sur une émotion pour en faire une force d'émancipation collective. Donc sur la peur, plutôt pour les personnes de genre femme, mais on en fait de plus en plus mixte, avec la volonté, comme un peu le féminisme l'a déjà fait avec la colère, mais là de retraverser la peur, et même pas mal sur la vulnérabilité pour les hommes.
Le 11 octobre, ce sera la journée nationale de mobilisation des associations. Est-ce que vous êtes de tout cœur avec ce mouvement ?
Sans aucun doute, le milieu associatif, pour moi, tient une grande partie de ce qui arrive à fonctionner en France. J'ai quasiment toujours, voire toujours, travaillé dans le milieu associatif avec toutes les difficultés qu'il rencontre, l'épuisement qui est ressenti de pire en pire ces dernières années. Le 12 octobre, justement, CEP organise un rassemblement des associations, quelque part à Valence, vous voyez sur leur site, ça s'écrit comme le champignon, C-E-P-E-S, et dans l'idée de créer du lien, de se rassembler, d'arrêter d'être isolé et de partager vraiment pour se sentir plus unis, plus forts.
Pour illustrer cette fin d'émission, je vous avais sollicité une chanson de votre choix.
Alors, Tristesse de Zao.
Eh bien, Caroline Robineau, merci beaucoup d'être venue sur Air du Bois pour nous parler donc de ces stages de théâtre ouverts à tous et intitulés Émotions au pluriel, mode d'emploi au pluriel aussi, sur 3 sessions. Donc, ça sera à la MJC du Centre Social Ninichèse à Aoust-sur-Scie.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très touchée d'avoir échangé avec vous.
Merci, bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Qui va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions de création, je contrôle tout le reste. Je contrôle, je contrôle, je contrôle tout le reste. Dire, il arrive des fois que qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là
Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse.
Marionnette, on est